Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Headline edition will bring you special reports and interviews in a moment.
Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien, heureux de vous accueillir dans Les Témoins de l'Invisible, l'émission de Radio Rancière dédiée à l'étude des phénomènes en attente d'une explication. C'est notamment le cas des objets volants non identifiés dont l'histoire officielle remonte à 1947, mais dont la présence parmi nous est peut-être plus ancienne. Cette problématique des ovnis qui intéresse au premier chef les militaires, on comprend bien pourquoi, a aussi éveillé la curiosité de quelques scientifiques audacieux. Et c'est l'un des plus célèbres d'entre eux qui va s'exprimer sur nos ondes dans l'heure qui vient. Jacques Vallée, astrophysicien de formation et informaticien, allez, n'ayons pas peur des mots, de génie. Jacques Vallée est né en 1939 à Pontoise. Il vit et travaille aux États-Unis depuis une soixantaine d'années. L'essentiel de sa carrière s'est déroulé à la NASA. Il y a notamment travaillé sur le système ARPANET, qui est un peu l'ancêtre d'Internet. Mais Jacques Vallée est aussi et surtout connu du grand public pour ses travaux sur les ovnis. Il est l'auteur de très nombreux livres, dont le dernier n'est pas le moins curieux, puisqu'il aborde un des aspects les plus controversés de l'histoire des ovnis, celui des crashs d'ovnis, en l'occurrence celui présumé de Trinity en 1945. Pour vous donner la mesure de l'importance de notre invité dans le domaine qui nous intéresse, eh bien, je me bornerai à dire que c'est Jacques Vallée qui a inspiré à Steven Spielberg le personnage incarné par François Truffaut dans ses Rencontres du troisième type. Cher Jacques Vallée, je suis honoré de vous recevoir sur nos ondes via Astelcast. Votre temps, je le sais, est des plus précieux, donc, eh bien, mille merci.
Merci de m'accueillir. Mon seul regret est de ne pas pouvoir vous rencontrer sur place à Chartres, qui est une des villes en France que j'aime vraiment le plus, et j'ai d'excellents souvenirs de visite à Chartres. Donc c'est quelque chose à prévoir pour l'avenir.
Alors là, je croise les doigts. Alors juste, donc pouvez-vous nous résumer en quelques mots les raisons pour lesquelles vous êtes, si j'ose dire, embarqué dans cette enquête, alors que jusqu'à présent, vous étiez finalement peu attentif aux histoires de crash?
Oui, alors on m'a souvent fait ce reproche, à juste titre. Comme vous le savez, je me suis surtout appliqué à essayer de comprendre la systématique des observations, à la fois en filtrant des observations, en faisant des enquêtes sur le terrain dans de nombreux pays, et en développant des bases de données, ce qui a été à un certain moment de ma carrière a été quelque chose d'important pour moi en informatique. Donc le sujet des crashs a été abordé très souvent dans mes discussions avec mes collègues, en particulier avec le docteur Reineck. Donc c'est pas un sujet que j'ai ignoré, mais c'est vrai que je ne me suis pas précipité sur place au Nouveau-Mexique jusqu'à une époque récente. Ouais. La raison était que quand on parlait Heineck et moi, et avec Stanton Friedman, par exemple, un ingénieur, donc comme vous le savez, un physicien américain que j'ai bien connu, que j'ai beaucoup apprécié, qui nous parlait de Roswell, sur lequel il a écrit plusieurs livres, etc. La situation pour les scientifiques, c'est que l'histoire est passionnante, les témoins sont valables, les témoins sont crédibles, tout cela évidemment reste à analyser, mais on n'a rien de matériel qu'on puisse amener au laboratoire. Ouais. Enfin, on a des choses de seconde main, etc., mais pas de choses qui soient vraiment convaincantes si on les amène devant l'Académie des sciences. Donc, il y avait d'autres priorités pour moi, d'autres observations pour lesquelles je pouvais apporter plus par mes recherches personnelles. Alors, les recherches sur le terrain au Nouveau-Mexique et ailleurs, bien entendu, ont été menées par des groupes d'amateurs passionnés qui comprenaient d'ailleurs non seulement des amateurs, mais des scientifiques. Mais on n'a jamais réussi à obtenir quelque chose d'absolument probant au laboratoire. Les choses ont changé. Il y a environ 5 ou 6 ans, grâce à des amis, notamment un ami à moi qui s'appelait Ron Brinkley, avec lequel j'ai fait pas mal d'enquêtes aux États-Unis, dont la famille était du Nouveau-Mexique, donc il connaissait bien le terrain et la sociologie, l'environnement social et économique du Nouveau-Mexique, et qui m'a convaincu qu'il y avait un certain nombre de sites sur lesquels on pouvait essayer de faire des recherches nouvelles. Donc on a commencé à s'équiper avec des pelles et des pioches et des détecteurs, etc. Et on a commencé à rassembler un certain nombre d'éléments, pas particulièrement sensationnels, mais quand même qui posaient question. Ouais. Parce que c'était des sites de crash qui n'étaient pas des crashs d'avions. Et là, on se trouve bien entendu devant toute la problématique militaire, etc., qui avait entouré tout cela. Et puis, grâce à Paola Harris, qui est une chercheuse italienne, mais qui a beaucoup travaillé aux États-Unis, j'ai appris des détails sur cette observation de 1945. Alors, quand vous avez dit tout à l'heure que les ovnis aux États-Unis, ça remontait à 1947, vous avez raison. Pour la plupart des ufologues, c'est en 1947 que ça a commencé. En 1947, pour la première fois, on parle des soucoupes volantes avec Kenneth Arnold, le pilote qui avait vu ces objets au-dessus de l'État de Washington. Et puis, il y a le crash de Roswell aussi en 1947. Seulement, est-ce que c'est vraiment là que tout a commencé? Parce que s'il y a vraiment un crash qu'on peut documenter en 1945 au Nouveau-Mexique, ça veut dire qu'il faut tout revoir. Parce qu'à ce moment-là, le mot soucoupe volante n'existait pas. L'objet qui s'écrase là n'est pas une soucoupe, c'est un ovoïde, c'est ce que les témoins appelaient un avocado, c'est-à-dire un avocat comme le fruit. Le cas peut être mis en rapport avec d'autres cas très similaires, notamment chez nous, le cas que nous connaissons bien à Valensole.
Oui, absolument. Oui.
Et le cas de Socorro, qu'on connaît bien aussi, 3 cas qui ont été étudiés par les militaires et par les experts nationaux, les experts de l'État, des physiciens, des scientifiques, y compris le docteur Hynek. Donc, c'est extrêmement important.
Oui.
Alors, je crois qu'on ouvre une nouvelle période dans cette recherche.
Oui. Donc, vous avez rencontré au moins un témoin. Et ces témoins, est-ce que vous pouvez nous les présenter? Parce que c'était des enfants, 1945, les enfants d'un propriétaire de ranch, c'était des petits cow-boys finalement. Et ils ont vu ce qu'ils n'imaginaient probablement jamais voir un jour.
Alors, il faut se replacer dans cette époque, juillet et août 1945, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Japon vient de capituler 2 jours avant. Le site, alors c'est une chose que les ufologues ont complètement ratée, le site se trouve à peu près 25 kilomètres de l'endroit où la première bombe atomique au monde a été explosée quelques semaines avant, à peu près quatre semaines précédemment. Donc c'est un moment extraordinaire, un moment unique de l'histoire, un endroit qui est un endroit unique de l'histoire. Et c'est pas un crash d'OVNI comme les autres, disons. Les crashs ovnis sont évidemment des événements rares et relativement extraordinaires. Ils posent un tas de questions. Mais ici, pour la première fois, on a un cas donc absolument historique, à un point géographiquement unique, où les témoins étaient sur place. Les témoins, comme vous le rappelez, sont deux enfants. Pourquoi les enfants étaient là? Eh bien, ils étaient là parce qu'ils géraient le bétail. Il faut se rappeler que tous les hommes et les femmes valides sont en uniforme. Les Américains, leur armée est dispersée depuis la Chine jusqu'à l'Allemagne, et où ils ont fait la jonction avec les Russes. Tout le monde est encore en uniforme et le travail des fermes est en grande partie dévolu aux enfants du fermier, et c'est bien le cas là dans le Nouveau-Mexique. C'est un ranch. Alors, les ranchs au Nouveau-Mexique, ils peuvent être de la taille d'un ou deux départements français.
C'est immense.
C'est un haut plateau qui a été soulevé à l'époque préhistorique, qui se trouve à 2000 pieds, c'est-à-dire à peu près 600 mètres d'altitude. C'est relativement désertique. C'est pour cela que l'armée a installé sa grande base de développement de la bombe atomique à White Sands, qui est à quelques kilomètres de ce ranch. Donc, on est à un endroit extraordinaire que je connais bien. J'y suis allé 6 fois au cours des 3 dernières années, 6 ou 7 fois, avec Paola Harris, qui avait commencé cette recherche 4 ans avant. Elle avait, alors que les ufologues américains disaient non, c'est Roswell qui est intéressant, tout le monde voulait aller filmer des documentaires à Roswell, etc. C'est très bien, mais à Roswell, personne n'a rien vu. À Roswell, il y a eu un crash pendant un orage, et les fermiers ont retrouvé un ou deux jours après des traces, mais il y a encore des controverses pour savoir s'il y a eu un événement ou deux, pour retrouver exactement l'endroit où ça s'est passé, qu'on croit avoir retrouvé, mais sur lequel on n'a pas pu, que ce soit le QFOS du docteur Hynek ou d'autres groupes, comme le MUFON, n'ont pas retrouvé d'éléments minéraux ou d'éléments métalliques qu'on puisse vraiment tester. Alors, il y a beaucoup de rumeurs autour. Ces rumeurs sont crédibles. Elles sont en général de seconde main, puisque personne n'a véritablement assisté au crash. Ouais. Alors, il y a des rumeurs sur des médecins en particulier qui auraient pu aider à la récupération de cadavres d'occupants ou de pilotes de l'objet. Mais il y a relativement peu de témoignages qui soient de témoignages qu'on puisse amener devant le Congrès des États-Unis ou devant l'Académie des sciences. Ouais.
On a tout de même le témoignage que Walter Haut avait enregistré un peu avant sa mort, je crois, qui a été dévoilé après sa mort. Il avait demandé qu'on le fît, et qui est assez impressionnant, puisque lui-même explique avoir vu un personnage qu'on lui a montré. Mais évidemment, Walter Haut est mort, donc pas question de le faire venir devant le Congrès.
Oui, et puis... c'est pas le résultat d'une enquête vraiment probante. C'est une déclaration importante, mais c'est une déclaration individuelle. Dans le cas donc qui nous occupe, le cas de San Antonio au Nouveau-Mexique, hein, pas le San Antonio du Texas, une ville qui s'appelle de la même façon. San Antonio ou San Antonito au Nouveau-Mexique, que je commence à bien connaître. D'ailleurs, on en fait le tour assez facilement. C'est une petite ville de campagne. Les deux enfants sont sur place. Ils sont là pour vérifier que les barrières sont intactes, pour que le bétail ne s'enfuit pas, ne parte pas ailleurs. Pour compter les animaux s'assurer qu'ils sont bien marqués, donc ils sont reconnus par leur brand, par leur marque sur leur épaule. Les enfants sont équipés de jumelles militaires, hein, de jumelles de qualité pour voir le bétail à longue distance et reconnaître les marques. Parce que de temps en temps, il y a aussi des animaux d'autres ranchs qui peuvent se retrouver sur le terrain, etc. Tout ça, il faut le surveiller. Leur père leur a dit, enfin, le père de José Padilla, qui est notre témoin principal, qui avait 9 ans à l'époque, qui conduisait le camion, d'ailleurs, de la ferme. Hein. Ouais. Faut
pas
oublier
ça.
tous les adultes partis, hein. Ouais. Il faut bien que quelqu'un conduise le camion dans la famille. Donc c'est des enfants qui ont grandi très vite. Hein. Ils ont grandi dans cette atmosphère de la guerre, à côté d'une très grande base de développement de la bombe atomique.
Ouais.
Donc on n'est pas dans une ferme tranquille dans le Cantal. leur père leur a dit de faire attention, de retrouver un veau qui devait naître autour de cette date, vérifier que d'abord que la vache était toujours en bonne santé, de marquer le veau très rapidement, de la marque du ranch, etc. Donc c'est eux qui surveillent les barrières et qui font tout cela. Donc ils sont sur place, à cheval. Il y a un orage, l'orage s'arrête, et il y a un bruit comme une explosion ou un choc. Ils voient qu'il y a un objet qui vient de heurter une tour de communication qui fait à peu près 25 mètres de haut, qui contrôle les communications avec les avions sur toute la zone nord de White Sands. White Sands, c'est de la taille un peu plus grand qu'un département français. C'est une très grande base militaire qui est aussi la base atomique où travaillent Oppenheimer et tous les savants atomistes qui ont développé la bombe. La tour de contrôle d'Alamogordo demande à un avion qui arrive pour atterrir, un bombardier, un B-29, aux commandes duquel se trouve un pilote qui s'appelle Brody, pilote très expérimenté. C'est un quadrimoteur. Hein. L'avion arrive donc, passe au-dessus du ranch. La tour de contrôle lui demande de vérifier ce qui est arrivé à la tour parce qu'ils ont perdu la communication avec toute la zone nord. Alors, bien que ce soit une ferme et des exploitations agricoles, ça fait partie du territoire élargi de la base de White Sands, une base militaire, sous le secret du projet Manhattan à l'époque. Hein. Donc, c'est une zone contrôlée. Donc, le pilote, au lieu d'atterrir directement à Alamogordo, qui est le terrain d'atterrissage de la base de White Sands, regarde, fait un tour, voit que la tour a été endommagée, donc elle n'émet plus, elle n'est plus fonctionnelle. Il voit de la fumée, il voit du feu dans la végétation, il voit qu'il y a un objet bizarre qui s'est posé, qui s'est craché à cet endroit sur le ranch, et il voit deux enfants qu'il décrit comme des jeunes Indiens. Alors pourquoi des jeunes Indiens? Ben parce qu'ils sont à cheval, enfin ils sont à côté de leurs chevaux et à côté de cet endroit où il y a de la fumée. Donc ils signalent tout ça. Donc on a ce témoignage. On sait que c'est pas les enfants qui ont inventé. De toute façon, les enfants quand on les a connus, c'est bien clair que pour eux ça avait été un événement tellement qui les avait marqués si profondément que c'était pas un sujet de canular. Hein. C'est quelque chose qui a eu un impact profond sur leur existence.
Oui, alors donc eux ont aperçu donc les enfants cet objet s'écraser. Alors vous l'avez dit, hein, une forme d'avocat, à peu près 3 mètres de haut, une partie éventrée, et les enfants observent dans la partie éventrée des petits bonshommes. Je ne sais pas comment on doit le dire.
Alors, là encore, il faut se replacer dans l'histoire. En 1945, bien sûr, il y a une guerre mondiale qui vient de se terminer, mais tout le monde est encore sous le coup des 5 années de guerre, de guerre totale sur le monde. Les enfants ont appris deux choses. D'abord, qu'il ne faut pas parler de ce qu'on voit, hein. Il y a des affiches que les restaurants du coin, les bars du coin ont gardées. On ne parle pas, etc. Il y a des espions, on sait qu'il y a des espions autour, etc. Donc, ils ne vont pas parler. Ils savent que c'est important, si on voit quelque chose, de porter secours aux pilotes, aux équipages qui peuvent avoir été blessés. Il y a pas mal d'avions qui s'écrasent, hein, dans la région, pas à cause de la guerre, mais à cause des conditions montagneuses, des conditions climatiques qui sont relativement violentes. Et au Nouveau-Mexique, je peux en témoigner, les orages arrivent vite. On est sur un haut plateau, on est à 600 mètres d'altitude, et puis les montagnes montent très, très rapidement vers le nord de cette zone. D'où l'importance de cette tour qui va guider les avions dans cette région montagneuse où souvent les avions s'écrasent. Donc ils savent qu'il faut tout de suite porter secours, évidemment. Ils sont dans une région isolée. Ils sont à 1 heure de route de la moindre pharmacie, du moindre médecin. Ils sont loin d'un hôpital. Donc c'est eux qui vont porter secours pour la première fois à un équipage, si l'équipage il y a. Donc le feu s'arrête, il y a la fumée dans la végétation, l'objet n'a pas pris feu, l'objet a gardé son intégrité, bien entendu. Un avion serait tombé en pièces, les ailes se seraient détachées quand il aurait heurté la tour. La tour a été endommagée sérieusement, mais elle tient toujours. L'objet s'est écrasé, mais il s'est écrasé en puissance. Il va donc arriver à terre et creuser un boulevard de presque 1 km de long jusqu'à un talus où il tourne apparemment toujours sous puissance. On se demande d'où vient la puissance parce que il n'a pas de réacteur, il n'a pas d'hélice, là on voit rien. Il a cette forme d'œuf ou d'avocado. Il fait ce tournant et il s'arrête près du ravin. Les enfants arrivent, une fois que les flammes dans la végétation, dans les plantes se sont. L'objet n'est pas vraiment endommagé, sauf qu'il a perdu un panneau d'à peu près 2 mètres sur 4, 2 mètres sur 3, qui s'est désintégré. Et à travers cette ouverture, il voit à l'intérieur de l'objet. Il voit trois humanoïdes, disons. Ces êtres ont l'air paniqués. Ils vont d'un endroit à l'autre, à l'intérieur, ils ne sortent pas. Ils n'ont pas l'air de voir les enfants, mais ils ont l'air de ressentir leur présence. Enfin, il y a une très curieuse forme de communication qui s'établit. Mais les enfants voient ces êtres et, contrairement à leur intention, ils ne s'approchent pas. Visiblement, les êtres sont pas blessés, ils ont l'air paniqués. Il y a une espèce de gémissement que les deux enfants, hein, qui ont été interviewés indépendamment, comparent au cri d'un lapin qu'on tue. Encore une fois, c'est des enfants de la ferme, hein. C'est pas, ils sont pas naïfs de ce point de vue-là. Ils savent ce que c'est que tuer un animal pour. Et en particulier des lapins, etc. Donc ils ont assisté à tout ça. Les êtres, les humanoïdes, sont apparemment en état de détresse. Ils ne savent pas comment les aider. Ils sont à peu près de leur taille, à peu près 1 m 20, 1 m 30. Ils n'ont pas d'appareil respiratoire, donc ils respirent l'air. Ils n'ont pas l'air d'avoir de problème de respiration ou de déplacement. Ils ont les épaules étroites et la tête aussi grosse que les épaules.
Voilà, on écouterait Jacques Vallée pendant des heures et On le fera puisque vous le retrouverez le mois prochain pour la suite de l'entretien exceptionnel qu'il nous a accordé à l'occasion de la parution en français de son livre Trinity, Le secret le mieux gardé, un livre qui a fait l'effet d'une bombe lors de sa parution. Je rappelle que Jacques Vallée est considéré dans le monde entier comme l'ufologue le plus accompli, le plus sérieux, le plus intelligent et probablement le plus avisé. Donc c'est une chance extraordinaire qui nous est accordée, cet entretien à l'occasion de son passage en France. Et je rappelle que Jacques Vallée vit à Los Angeles depuis de très très nombreuses années. On se retrouve le mois prochain pour la suite de l'entretien passionnant que notre ami Jacques Vallée nous a accordé. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.
I like the way sparkling earrings lay against your skin so brown. And I wanna sleep with you in the desert tonight with a billion stars all around. 'Cause I got a peaceful, easy feeling and I know you won't. I get a peaceful